sont coordinateurs de cette maison de prière également au Château Blanc, où il y a des temps d'adoration, de louange interconfessionnelle chaque vendredi soir. Jean coordonne aussi un petit peu une plateforme d'enseignement à Roubaix. Maggie est très active dans une association Manassé à Roubaix aussi, s'occupant un peu de la diaspora, un petit peu du Centrafrique. Voilà, bon, j'en dis pas plus, mais et en tout cas on les aime parce que il y a une profondeur dans leur vie avec Dieu, et c'est ce qu'on aime, on aime la profondeur, hein. Et nous sommes sûrs que Jean a quelque chose de la part du Seigneur à nous partager. Maintenant, ouvrons nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Nous le bénissons encore. Sois béni, Jean, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, bonjour à tous. Je suis content de retrouver plusieurs visages qu'on connaît bien et puis de découvrir d'autres. Voilà, on va... Je remercie aussi la louange pour nous avoir fait entrer dans la présence de Dieu. Je pense qu'il y avait vraiment une direction de l'esprit, comme on va le voir, parce que plusieurs choses qui ont été déclarées ou chantées dans la louange, je pense que c'est quelque chose sur lequel le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Alors, quand j'ai préparé ce message, je savais que c'était Pâques, mais donc je me disais, bon là, est-ce que je dois faire quelque chose spécifiquement sur la mort et la résurrection du Christ, message de Pâques classique, mais... Je me sentais attiré vers une parole que j'ai reçue il y a quelques mois, mais qui me travaille depuis, et que le Seigneur fait grandir en moi. Et je sentais vraiment que c'est cette parole-là que je devais partager, mais rassurez-vous, il y a une histoire de mort et de résurrection dedans. Donc ça m'a conforté. C'est pas celle de Jésus, mais je crois qu'on va découvrir comment, au travers de cette histoire de mort et de résurrection, la puissance de résurrection qui est en Christ travaille en nous. Voilà. Alors... Vous allez voir que la louange était... il y a une conduite de l'esprit sur la louange, puisque le premier passage que je voulais donner avec vous, avant de commencer cette histoire, c'est un passage dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean 10. Voilà, versets 9 à 11. Jean 10, versets 9 à 11. C'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Voilà. Donc vous voyez, le Seigneur là, nous parle à travers le chant qu'on vient d'entendre, à travers cette parole. Donc c'est Jésus qui déclare sur lui-même qu'il va donner sa vie pour ses brebis, pour tous ceux qui vont accepter de le suivre. Mais il est parlé d'une vie abondante et il est parlé d'une liberté. Et est-ce qu'aujourd'hui, si tu regardes ta vie chrétienne, est-ce que si nous regardons notre vie chrétienne, on peut dire j'ai une vie abondante en Jésus? Alors je ne parle pas forcément, c'est pas l'évangile de la prospérité, hein, je ne dis pas forcément abondante financièrement, mais est-ce qu'il y a ce shalom de Dieu? Vous savez, le shalom, la paix de Dieu, c'est plus que la paix, c'est la plénitude, c'est rien de cassé, rien qui manque. Est-ce que j'ai cette vie abondante? Et est-ce que je marche librement, comme Jésus a promis pour ses brebis? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que c'est le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection qui ne sont pas suffisants pour toi, pour moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque en toi, en moi? Et il y a quelques mois, j'étais dans un temps de jeûne et de prière, et dans ce temps de jeûne et de prière que j'avais mis à part, le Seigneur m'a interpellé, et il m'a dit, « Jean, quelles sont les limitations que tu mets que tu me mets, quelles sont les limitations que tu me mets, quelles sont les limitations que nous mettons à Dieu, à sa vie abondante et à la liberté que nous avons en lui. » Et ça m'a interpellé, cette parole de Dieu, et aussitôt le Seigneur m'a ramené à la mémoire un passage de la Bible qu'on va lire maintenant, et au travers desquels je voudrais qu'on découvre à la fois nos limitations, mais aussi à la fois la vie abondante et la liberté que Dieu veut donner à chacun de ses enfants qui acceptent de le suivre. Donc cette histoire, elle est dans, on va dans l'Ancien Testament, elle est dans un roi, dans deux rois, pardon, dans deux rois. Deux rois, verset 4, une histoire que la plupart d'entre nous connaissent bien. Une histoire, un des miracles que Élisée, le prophète, a fait. Donc 2 Rois 4, donc un passage un peu long, mais on va le lire ensemble. Voilà, on va lire du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, non pas jusqu'à la fin, pardon, jusqu'au verset 37. Voilà, ça sera un peu long, mais je pense que c'est important d'avoir ce passage parce qu'on va méditer dessus ensemble. Donc 2 Rois 4, verset 8 à 37. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Non, merci. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour cette femme ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête, que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle lui répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement, ne t'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est notre Sunamite, cours vite à sa rencontre et demande-lui, tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit, « Tout va bien. » Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne, elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter, mais Élisée lui dit, « Laisse-la faire. Elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et il ne m'en a pas révélé la cause. » Alors la femme s'écria, « Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs ?» Élisée ordonna à Géasi, « Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Et si quelqu'un ne te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. » La mère de l'enfant s'écria, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Géasi les avait devancés, il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'était passé, pas un son, pas une réaction. Il revint donc sur ses pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant, il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, « Va chercher cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit, « Voici ton fils. » « Reprends-le. » Elle s'avança, se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, merci pour le trésor, les trésors de ta parole. Père, je prie aujourd'hui que tu déverses ton trésor et tes trésors sur chacun de nous et que nous le recevions avec un cœur ouvert, avec un cœur qui croit, Seigneur, que tu puisses chasser toute incrédulité de nos cœurs et que nous puissions recevoir la vie de ta parole telle que toi tu veux la donner et qu'elle produise sa vie en chacun de nous. Seigneur, tu sais où chacun de nous se situe, Seigneur, tu sais dans quoi nous luttons, tu sais où nous sommes et tu as une parole de vie pour chacun ici ce matin. Et Père, nous voulons disposer nos cœurs et nos pensées à croire et à recevoir cette parole de vie, cette parole de puissance qui va libérer nos cœurs, qui va libérer la vie abondante que le bon berger veut donner à chacun de ses enfants. Donc merci Seigneur, merci, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité ce matin et qu'elle produise ta vie en chacun de nous pour nous amener près de toi, là où tu veux que nous soyons avec toi, dans ta présence. Amen. Amen. Quelles sont les limitations que nous mettons au Seigneur? Ici nous avons l'histoire d'une femme qui a un cœur pour Dieu. Elle désire honorer Dieu. Et vous voyez, c'est... il ne faut pas que j'aille de ce côté alors. Elle désire honorer Dieu. Il y a possibilité de l'éteindre? Parce que... Ah, ça y est. Oui, merci. Elle désire honorer Dieu de tout son cœur. Et vous voyez, cette histoire, elle vient juste après une autre histoire qui est juste... Bon, l'histoire qui est juste avant, c'est Élisée qui va intervenir dans la vie d'une veuve plutôt, et là aussi qui est dans une situation très difficile. Et la veuve est pauvre et elle est prête de mourir. Tandis que là, on a une situation différente. C'est une femme mariée, c'est une femme riche. Alors, on va se dire, mais oh, elle n'a pas de limitation, cette femme. Mais elle a une limitation. Et cette limitation, elle est dans son cœur. Elle est dans son cœur. Cette femme, elle a quelque chose, elle a un manque dans son cœur qu'elle ne veut pas avouer. Vous voyez, quand le serviteur dit, mais voilà, regarde, c'est une femme, elle est mariée, elle est riche, elle semble heureuse, elle dit, je vis heureuse au milieu de mon peuple, mais elle n'a pas d'enfant. Et vous savez, bon, déjà pour un couple, pour n'importe qui, ne pas avoir d'enfant, c'est une souffrance. Pour une femme, je pense, d'autant plus. Et à l'époque, en Israël, c'était non seulement une souffrance, mais c'était comme un signe de malédiction. Si tu n'avais pas d'enfant, c'est, oh, mais... Dieu les a maudits, ils n'ont pas d'enfants, c'est sûrement que quelque chose ne va pas dans leur vie. Donc c'était un signe d'opprobre, de honte, et la femme devait souffrir de ça. Mais quand Élisée lui dit, mais tu auras un enfant, regarde comment elle réagit. D'abord, elle lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais ça va, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Vous voyez, son besoin est identifié par les autres, et elle n'est pas apportée par elle. Souvent, quand nous portons des choses depuis des années dans nos cœurs, nous avons intégré ça, nous avons accepté ça, nous nous sommes résignés à cela. Et cette femme s'est résignée à cette situation de stérilité dans sa vie. Et quelles sont les situations auxquelles nous nous sommes résignés dans nos vies? Peut-être on a prié Dieu dans le passé, comme cette femme probablement. Et puis là, elle est arrivée à un point où elle s'est résignée. Et c'est dans son point de résignation que le Seigneur va intervenir. Quelles sont les choses que tu as enfoui, que nous avons intégré, sur lesquels nous nous sommes découragés, nous nous sommes résignés. Et c'est comme une souffrance, mais qui n'est pas identifiée, qui est là et qui fait qu'on n'arrive pas à entrer dans la vie abondante de Dieu. Je pense que si le Seigneur n'a pas parlé spécifiquement, comme il a parlé à Paul, où il a dit à Paul, Paul était venu trois fois pour lui demander de lui ôter les chars de la chair, bon, c'était une souffrance physique, quelque chose que Paul avait, on ne sait pas exactement quoi, et Dieu lui a dit trois fois, ma grâce te suffit. Mais à moins que Dieu ait parlé comme ça dans ta vie, Dieu ne nous demande pas de nous résigner dans les choses dont nous avons besoin et qu'il sait que nous avons besoin. Et cette femme a préféré enfouir sa frustration que de la porter à Dieu. Et regardez sa réaction. Elle s'écrie, elle dit, ne me donne pas de faux espoirs. Vous savez, en hébreu, le mot, ça veut dire, ne me déçois pas. Ne fais pas que je manque le but, que j'échoue. Ne me déçois pas. Parce qu'elle a été tellement déçue qu'elle a peur d'être déçue à nouveau. Dieu, à travers Élisée, il touche là où ça fait mal. Quels sont les domaines de nos vies où nous ne voulons pas ouvrir la porte à Dieu parce que nous savons que s'il touche là, ça va faire mal? Mais quand Dieu réouvre une vieille blessure, vous savez, des fois on a des vieilles blessures qui sont guéries, mais c'est comme une douleur, hein. Par exemple, si vous êtes cassé une jambe, et puis peut-être vous avez une douleur ou une grosse blessure, et peut-être il y a toujours une douleur qui est là. Bon, la blessure est guérie, mais vous le sentez quand vous marchez, vous le sentez peut-être quand vous vous réveillez le matin, et il y a une douleur qui est là. Et quand Dieu réouvre une blessure, c'est pas pour la rendre pire, c'est pour la guérir. Et c'est ce que Dieu veut faire chez cette femme. Essayons d'identifier le poids de nos échecs, de nos frustrations, de nos déceptions qui font que nous n'arrivons pas à entrer dans la vie abondante de Dieu. Donc, cette femme, elle a décidé d'enfouir son rêve, d'accepter la frustration, de l'échec, et elle a renoncé. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles nous avons renoncé? Peut-être c'est le choix d'un conjoint. Peut-être qu'on se dit, oh bon, non, je ne trouverai pas ça. Peut-être que c'est la conversion d'un conjoint. Peut-être que c'est la conversion de nos enfants. Peut-être c'est une promesse que Dieu t'a fait dans le domaine de la santé, dans le domaine du ministère, dans le domaine de ton travail. Est-ce que nous avons entendu Dieu, mais nous avons renoncé à porter cette prière devant lui? Est-ce que nous avons choisi d'enterrer la frustration au lieu de laisser Dieu libérer son rêve en nous? Et donc cette femme-là, elle va voir, malgré sa réticence, malgré sa résistance, elle va voir le rêve de Dieu s'accomplir en elle. Elle va obtenir ce fils qu'elle a dû prier pendant des années, mais auquel elle avait renoncé. Essayez d'imaginer la joie de cette femme. Je pense que ce n'est pas compliqué à imaginer si on arrive à identifier quelque chose que le Seigneur nous a promis, après lequel nous avons langui pendant des années, et que d'un seul coup le Seigneur donne. Quelle libération, quelle joie pour cette femme. Et donc je peux imaginer sa joie, mais ce qui est étonnant chez cette femme, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que la joie en elle. Il y a la crainte. Il y a la crainte. Regardez au verset 28, quand elle va voir Élisée après la mort, elle lui dit « Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs ?» Toutes ces années, elle a porté cette parole « Ne me donne pas de faux espoirs ». Toutes ces années, elle a eu la crainte que ce que Dieu lui avait donné lui soit repris. Toutes ces années-là. Ce qui fait qu'elle vient avec toute cette amertume, cette colère, elle dit « Mais ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs ?» Vous voyez, il y a quelque chose en elle qui n'a pas été vaincu. C'est cette crainte et cette résignation. Et d'où ça vient, ça? Je crois que ça vient d'un sentiment d'indignité. Elle lui dit, voilà, quand il vient et qu'il lui propose ça, « Non, non, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Elle ne cherche pas à obtenir ce que Dieu veut lui donner. Et elle lui dit, « Voilà, ne me donne pas de faux espoirs. » Elle estime qu'elle n'est pas digne de ce que le Seigneur veut lui donner. Combien de fois nous sommes prisonniers d'un sentiment d'indignité? Je vous raconte une petite anecdote. Il y avait une sœur en Christ, qui avait besoin d'une voiture. C'est une histoire vraie, hein, qu'elle nous a racontée. Et puis, elle priait pour ça. Elle n'avait pas les moyens financiers d'avoir vraiment une voiture bien. Et puis, elle a eu une opportunité par la famille. Elle s'est retrouvée avec une voiture magnifique, qui n'était pas neuve, mais qui était comme neuve, je dirais en tout cas, qui était très belle, et bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé, de tout ce qu'elle avait demandé à Dieu. Et à partir de ce moment-là, elle s'est dit, « Oh, mais cette voiture est trop belle pour moi. » Oh, chaque fois qu'elle voyait cette voiture, elle disait, « Oh, mais Dieu, cette voiture est trop belle pour moi. » Jusqu'au jour où la voiture est tombée en panne. Et puis elle a commencé à tomber en panne, elle a fait des réparations, c'était déjà assez cher, elle s'est dit, « Bon, ça va aller. » Elle est retombée en panne, et finalement, ça coûtait une fortune, cette voiture-là. Et cette sœur nous a dit, j'ai compris que ça c'était à cause de ma prière. Je disais, oh mais cette voiture est trop belle pour moi. Je me sentais indigne de la voiture, et donc quelque chose a fait que la voiture a été reprise. Enfin, elle a regardé la voiture, mais ça lui a coûté cher. Et c'était intéressant parce que c'est à l'époque où moi je cherchais une voiture. Et ça fait des années, on avait une vieille voiture de 20 ans qui vraiment avait du mal à fonctionner. Mais elle faisait quand même son travail par la grâce de Dieu. Et je cherchais une voiture, et bon, je m'étais dit, oh, je vais prendre, allez, je cherchais un peu ce qu'on pourrait avoir besoin, et je m'étais dit, oh, peut-être une Citroën Xara ou une Mégane à l'époque, et, mais d'occasion, bien sûr. Hein. Et un jour, que je marchais, Dieu me dit, vraiment clairement, je vais te donner une Laguna. Et à ce moment-là, je vois une laguna qui passe juste après. Et en fait, bon, je pourrais raconter beaucoup là-dessus. Et en fait, le Seigneur a dirigé et a fait que on a une laguna. Vous pourrez regarder, elle est dehors. C'est une vraie histoire. Et puis, voilà, je cherchais une laguna très spéciale parce que je savais que les autres consommaient beaucoup. Je cherchais une 16V parce que je savais que c'est la seule qui consommait pas. Il y en avait pas. Personne les vendait parce que tout le monde était content d'en avoir. Jusqu'au jour où j'en trouve une et je me précipite à Douai pour voir cette voiture. Oh, super voiture avec l'air conditionné dedans. J'avais jamais demandé ça. Et donc, il propose le prix. Bon, c'était juste au maximum de ce que je pouvais donner. Et je dis, bon, donnez-moi 24 heures, je vous réponds, ah, faites vite parce qu'on a des autres clients, etc. Et puis sur le chemin du retour, je commence à dire, oh non, mais la voiture est trop belle pour moi. Puis je dis, ah non, mais Seigneur, est-ce que tu veux me donner cette voiture là? Et à ce moment-là, sur l'autoroute, j'ai ma vieille voiture qui fait plop, 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 et qui marche plus. Et je tombe sur le parking, là, à peu près de Falampin. Je traîne la voiture jusqu'à je me fais remorquer, je crois, jusqu'à un garage à Seclin. Et bon, les gens, ils me disent, ah, si vous la faites rentrer au garage, il faut payer tant. Je dis non. Et donc là, j'ai compris que Dieu me disait, mais pourquoi tu acceptes pas ma voiture? Donc j'ai laissé notre vieille voiture et on a acheté cette nouvelle voiture qui a été une bénédiction pour nous. Combien de fois le sentiment d'indignité des chrétiens le prive des bénédictions de Dieu? Combien de fois tu te sens indigne? Pourquoi tu te sens indigne? Tout à l'heure, on a chanté un chant, c'est pour ça que je dis que la louange aussi était vraiment inspirante. Voilà, je viens à lui, l'être plein d'indignité. Et vous rappelez la suite des paroles? Mais par la foi justifié. L'indignité, elle vient quand on s'appuie sur le mérite. L'indignité vient quand on s'appuie sur le mérite. Mais avec Dieu, c'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. L'indignité vient quand on s'appuie sur le mérite. Dieu nous appelle à la trône de sa grâce. C'est là qu'il nous rend dignes et il nous rend dignes de sa vie abondante et de la liberté qu'il veut nous donner. Rappelez-vous quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent parce qu'ils savent qu'ils sont indignes. Et Dieu vient les trouver et Dieu vient les revêtir de vêtements de peau. Et il les rend dignes. Là où ils étaient nus, là où ils étaient pris dans leur nullité, dans leur péché, Dieu les revêt de sa justice, gratuitement. Et je pense qu'il y a quelque chose avec lequel nous luttons. On lutte avec cette idée de la grâce de Dieu, avec cette idée de la foi gratuite que Dieu nous donne, qui nous justifie. Bien sûr, Dieu te dit pas de rester dans ton péché, mais chaque fois que tu reviens vers lui et que tu demandes avec vérité le pardon de Dieu, Dieu vient avec sa grâce. Et il te rend digne. Quelles sont les choses que nous regardons en arrière et on dit je suis indigne? Peut-être il y a des choses que tu as fait dans ta vie avant de connaître Christ et l'ennemi vient te condamner et tu penses à ces choses et tu te dis oh mais je suis indigne. Peut-être c'est des choses que tu as fait pendant ta vie chrétienne et que tu as confessé à Dieu, mais c'est comme si tu es poursuivi par cette indignité, tu es poursuivi par le regard que tu portes sur ta propre vie et le regard que les gens et les jugements des gens portent sur ta vie. Quelle est l'indignité que Dieu veut lever de ta vie afin que tu entres dans la vie abondante? C'est ce qui va arriver à cette femme. Cette femme a reçu la bénédiction de Dieu, mais le problème c'est qu'elle reste dans la crainte. Elle reste dans la crainte. Et alors elle va perdre ce qui était le plus cher pour elle. Et voyez, c'est frappant parce que quand elle perd ça, elle ne va pas supporter de perdre ça. Et il y a quelque chose d'étrange. Souvent, quand on a renoncé à quelque chose, bon, il y a une frustration là, mais on est capable de renoncer à quelque chose. Mais quand on obtient quelque chose et que c'est repris, on est beaucoup plus en colère que si on l'avait jamais eu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand vous désirez quelque chose pendant des années, mais finalement, bon, vous voyez, vous ne l'aurez pas, et vous acceptez de renoncer, vous acceptez de vous résigner, disant, oh, finalement, peut-être que j'étais indigne de cette chose. Et ça, c'est quelque chose que vous acceptez bien. Et par contre, quand quelque chose nous est donné gratuitement et nous est repris, oh là, on a du mal à accepter ça. Et Dieu veut le contraire de ça. Dieu est le contraire de ça. Lui, il veut nous donner... Voilà, comment je dirais ça? Il veut pas que nous renoncions à ce qu'il nous a promis, mais il veut aussi que nous soyons dans cette liberté que Dieu puisse reprendre ce qu'il nous a donné. Mais en fait, Dieu va reprendre cette chose à cette femme, pas pour l'accabler, mais parce qu'il veut faire un travail dans son cœur. Il voit que son cœur doit être changé. Dieu ne regarde pas à la bénédiction, il regarde au cœur qui doit être transformé, qui doit être guéri pour porter sa bénédiction. Je vais revenir là-dessus après. Donc voilà, qu'est-ce que fait cette femme ? Elle va changer toute son attitude. Vous voyez, jusque-là, elle était dans une attitude de résignation, et là, elle entre dans la chambre du prophète et elle dépose l'enfant sur son lit. Vous remarquerez que juste avant ça, quand le prophète l'appelle, elle se tient sur le seuil de sa chambre. Elle n'entre pas dans la chambre. Cette femme est chez elle. Cette femme a construit ça pour le prophète. Mais vous voyez, Élisée, c'était le plus grand prophète de l'époque. Il y a une sorte de consécration. La femme se dit, oh, mais je suis pas digne d'entrer dans la présence du prophète. Je suis pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Je suis pas digne de recevoir le cadeau que Dieu veut me donner. Non, non, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Je préfère enfouir ma frustration, accepter mon renoncement et ma résignation. Et là, quelque chose a commencé à changer chez cette femme. Elle va pas dire, oh, mais je vais quand même pas oser rentrer dans la chambre de l'homme consacré. C'était quelque chose qui devait être perçu comme un lieu presque saint, parce que cet homme de Dieu représentait la présence de Dieu, même s'il n'est pas Dieu, bien sûr, il n'est qu'un homme. Mais pour les hommes de l'époque, il y avait une aura, il y avait une consécration, et cette femme n'ose pas entrer. Et là, elle entre, elle pose, et elle veut confronter, elle accepte de confronter sa résignation pour aller vers Dieu, et pour demander à Dieu. Quelque chose est en train de changer, c'est cette femme. Et Dieu est en train de l'amener à un autre état d'esprit. Elle sort, elle refuse la fatalité et elle sort de son indignité pour entrer. Vous savez, quand Jésus est mort, vous voyez, l'enfant, il est mort, et maintenant la femme entre dans la chambre. Et quand je voyais ça, je voyais un parallèle. Quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. Et maintenant, on pouvait entrer dans la présence de Dieu. C'est comme si un voile devait être déchiré sur cette femme. Et c'est par la mort de ce fils, quelque chose va se déchirer en elle. Bien sûr, il y a une souffrance, mais il y a quelque chose de son indignité, de sa résignation qui va être déchirée pour la faire entrer dans une détermination de demander à Dieu ce qu'il lui a promis. Ensuite, regardez, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va voir son mari. Et puis elle lui dit, donne-moi un serviteur et je vais marcher. Il y a une détermination. Elle ne dit pas à son mari. Son mari lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre qu'il ne lui demande même pas des nouvelles de l'enfant d'ailleurs. Il lui a donné quelques heures plus tôt. Et elle dit, non, tout va bien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas confesser la fatalité de la mort. Elle n'accepte pas de se résigner à la mort de cet enfant. Donc elle ne le confesse même pas. Et elle est prête à partir 26 kilomètres. La distance entre Sunem et le Mont Carmel, 26 kilomètres sur le dos d'un âne. Et elle part là-bas parce qu'elle a cette détermination à confronter sa résignation. Elle se met en marche avec autorité et détermination parce qu'elle veut... comment je pourrais dire ça ? Elle est prête à confronter Élisée et sa promesse, mais en fait Dieu et sa promesse, et en fait là derrière, sa résignation et son sentiment d'indignité. Elle est prête à le confronter, et c'est là que Dieu va pouvoir intervenir dans sa vie. Donc elle marche, et puis quelque chose de surprenant se passe. Elle vient près d'Élisée, et Élisée dit, mais cette femme est dans l'amertume, et Dieu ne l'a pas révélée. Ça vous a jamais surpris, ça ? Mais non, les prophètes, les grands prophètes, comme ça, ils doivent tout savoir. Voilà, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3,7 nous dit ça. Mais pourquoi, à votre avis, Dieu n'a pas révélé ça à Élisée ? Ça nous rappelle que Dieu est toujours souverain. Même si on est le plus grand prophète, Dieu est souverain dans ce qu'il révèle à ses enfants. Pourquoi, à votre avis ? C'est bizarre, le grand serviteur, le grand prophète Élisée, pourquoi Dieu ne lui a pas révélé ça ? Est-ce que vous avez une idée de ça ? Voilà, exactement. Parce qu'il voulait que ce soit la femme qui intervienne. Si Élisée avait su ça, certainement il aurait dit, oh là là, mais j'ai fait une promesse à cette femme de la part de Dieu, l'enfant est mort, je vais vite aller pour ressusciter le fils. Mais Dieu voulait que la femme intervienne et fasse la démarche elle-même. Parce que la femme devait surmonter quelque chose de la résignation et du sentiment d'indignité en elle, pour accepter de confronter Dieu et de demander à Dieu ce qu'elle n'avait pas osé demander, ce qu'elle n'avait pas osé recevoir. Maintenant, elle ose le demander à Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a pas révélé. C'est pour ça. Et à ce moment-là, elle se trouve devant Élisée, regardez, elle le saisit par les pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà été saisi par les pieds par quelqu'un. Je me souviens, la première fois que je suis arrivé, c'était au Soudan, je pense, oui, c'était au Soudan. Et on était dans la ville de Khartoum, et là, il y avait des poliomyélites, mais qui n'ont pas de... Donc avec les jambes complètement déformées, et comme ils n'ont aucun moyen de locomotion, ils rampent par terre comme ça. Et quand ils voient les gens passer, ils rampent par terre, ils te saisissent par les jambes jusqu'à ce que tu leur donnes quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de terrible quand tu es saisi par les jambes. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette femme est dans cette position où elle ne laisse pas partir. Elle ne laisse pas partir Élisée, elle ne veut pas laisser partir Dieu, mais elle le saisit jusqu'à ce qu'il lui donne ce qu'elle désire maintenant. Et où en suis-je? Voilà. Oui. Voilà. Donc dans ce face-à-face, c'est là que, par sa persévérance, la femme va obtenir et va ce que Dieu lui a promis. Mais plus que ça, elle va traverser, elle va surmonter sa propre indignité, sa propre résignation. Vous voyez, Élisée dit, allez, va et Géasi, prends mon bâton et va le ressusciter. Si Géasi avait ressuscité avec son bâton, Dieu n'aurait pas accompli tout ce qu'il voulait accomplir. Pour Dieu, le problème n'était pas de ressusciter le fils. Pour Dieu, le problème était de changer le cœur de la femme. Ça, nous devons comprendre ça. Très souvent, nous pensons que notre problème, c'est d'obtenir la bénédiction de Dieu. Mais Dieu dit, non. Mais j'ai pas de problème pour te donner la bénédiction, mais je veux changer ton cœur. Vous voyez, il y a deux possibilités. Soit nous nous concentrons sur ce que Dieu veut nous donner, soit Dieu veut plus que nous donner une bénédiction. Il veut changer nos cœurs pour que nous n'ayons pas de cœur stérile. Le problème pour Dieu, c'est un cœur stérile parce qu'il ne peut pas enfanter, parce qu'il ne peut pas recevoir et il ne peut pas multiplier sa bénédiction. Et Dieu invite cette femme à guérir son cœur parce qu'il sait qu'à ce moment-là, cette femme va pouvoir porter toute la bénédiction qu'il veut qu'elle porte dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Qu'est-ce qui doit être guéri dans nos cœurs pour que la bénédiction de Dieu coule? Donc, dans ce face-à-face, voilà, si c'était simplement Géasi qui devait partir, la femme n'allait pas aller au bout de sa demande, au bout de sa démarche. Elle tient ferme sur Élisée, elle tient ferme ses jambes et elle ne va pas bouger tant qu'il ne bougera pas. Et c'est ce qui se passe finalement. Et finalement, Géasi, il revient et il n'a pas ressuscité. Il n'a pas ressuscité. Il fallait que la femme aille au bout de sa démarche devant le cœur de Dieu. Et en plus, ça nous parle de quelque chose, c'est que l'onction n'est pas dans le bâton d'Élisée. L'onction est dans la présence de Dieu. Vous voyez, Géasi ne pouvait rien avec le bâton de l'onction parce que lui-même n'avait pas cette relation avec Dieu. Ce qui va changer ta vie, c'est pas une onction extérieure de quelqu'un, c'est pas l'onction extérieure d'un grand prophète, c'est pas l'onction extérieure de l'église, c'est pas l'onction extérieure du pasteur. C'est ta relation avec Dieu, dans sa présence, où tu vas trouver la réponse qui va guérir ton cœur, où Dieu va te libérer de l'indignité et de la résignation pour te donner ce qu'il voulait te donner. Et donc, l'enfant est ressuscité. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ça? Il nous appelle à l'intimité pour sortir de nos limitations. Quelles sont les limitations que tu mets? Rappelez-vous de cette interpellation. Dieu nous appelle à l'intimité avec lui où nous allons pouvoir recevoir son amour. Vous voyez, il y a quelque chose que cette femme n'avait pas compris. Elle ne savait pas à quel point elle était aimée de Dieu. Elle aimait Dieu, elle était prête à honorer Dieu, mais elle ne savait pas à quel point elle était aimée de Dieu. Et on va finir avec un passage, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Vous voyez, l'histoire s'arrête là pour ce qu'on a lu, mais en fait, et ça je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, dans la parole on revoit cette femme un peu plus loin. On revoit cette femme dans 2 Rois 8, des années après. Donc 2 Rois 8, on va lire juste les 8 premiers versets. 6 premiers versets. Et on retrouve cette femme. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, donc c'est bien celle-là, « Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. » La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu, elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la septième année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama « Mon Seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. » Le roi interrogea la femme, et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi la mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, et qu'on lui paie même une redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Vous voyez, il y a quelque chose qui a changé cette femme. Dieu parle. Et il lui dit « Quitte ton pays », et cette femme obéit promptement. Et ce n'est pas une petite obéissance, elle ne craint plus d'être délaissée par Dieu. Et il lui dit quoi ? « Quitte tes terres », ah, c'est revenu, « quitte ta patrie », quitte ta patrie. Et il lui dit aussi « Va dans un pays », et elle va où ? Chez les Philistins, les principaux ennemis d'Israël. Quelque chose a changé, c'est cette femme. Elle sait que Dieu l'aime en toutes circonstances. Elle sait que Dieu est présent même dans un milieu hostile, que Dieu va la garder, Dieu a promis et Dieu va la couvrir de son ombre, même quand elle sera chez les Philistins. Quels sont les milieux hostiles qui nous font peur ? Est-ce que peut-être c'est dans le cadre de ta famille parce que tu es converti et que ça n'a jamais été accepté ? Est-ce que c'est sur ton travail parce que tu vois que l'atmosphère n'est pas spirituelle est très lourde, tu sens que c'est un milieu hostile, mais cette femme a compris que Dieu était plus fort que tout milieu hostile, que l'amour de Dieu la gardait et la remplissait où qu'elle soit. Quels sont nos milieux hostiles dans lesquels nous avons peur d'aller ? Mais si nous comprenons à quel point l'amour de Dieu est là, nous sommes capables d'affronter nos milieux hostiles et nous sommes capables d'être bénis. Dieu est capable de bénir ses enfants dans les milieux hostiles. C'est ce qu'il fait avec cette femme. Il la garde, il la ramène. Et ensuite, il se passe l'un des plus grands miracles de la Bible, vous voyez. Elle arrive, cette femme, au moment précis où Géasi est devant le roi. Je pense que Géasi, il n'allait pas tous les matins chez le roi. Hein. Le roi, ça va. Non, je pense que c'était exceptionnel qu'il puisse aller chez le roi. Et comme par hasard, il est là, ce matin-là, chez ce roi. Et comme par hasard, il raconte les miracles d'Élisée. Et comme par hasard, il raconte... Élisée, il en a fait des miracles. Hein. Il raconte exactement le miracle de la veuve. Et comme par hasard, elle entre à ce moment-là. Parce que Dieu a préparé ce temps de toute éternité pour la femme, non seulement d'être guérie, d'être changée, mais de recevoir l'abondance que Dieu veut lui donner. Vous savez, je crois qu'il y a des rendez-vous dans nos vies, des rendez-vous divins, où Dieu a préparé quelque chose, où il veut nous libérer dans sa vie abondante. Le seul problème qui aurait pu arriver ici, c'est si la femme n'était pas au rendez-vous de Dieu. Elle aurait pu dire, oh là là, mais je ne vais pas aller demander devant le roi, je ne suis qu'une femme, est-ce que le roi va me donner ? Mais elle savait que l'amour de Dieu était plus fort et plus grand que l'autorité du roi. Elle n'a pas hésité à aller et elle n'a pas manqué le rendez-vous du vin, mais elle a reçu ce qu'elle devait recevoir de la part de Dieu. Cette femme a confronté sa résignation. Cette femme n'a pas regardé à son indignité, mais elle a regardé à l'amour de Dieu et elle a été transformée. Voilà, juste une note et on finit là-dessus. Pardon. Voilà. Et je vous donne juste une petite anecdote pour vous montrer que ce n'est pas théorique, cette parole-là. Parce que, en fait, c'est une parole que le Seigneur nous avait donnée récemment et que j'ai vu s'accomplir sur ces 7 années de redevance du Seigneur. Vous savez, il lui donne 7 années, non seulement il lui donne 7 terres, mais 7 années de redevance. Et il y a quelques temps, on s'est rendu compte qu'on avait un problème avec nos impôts au château, et que certainement on avait payé trop d'impôts pendant 20 ans au château. On payait à la fois la taxe d'habitation, la taxe foncière, et le Seigneur nous a mis ça en lumière, mais moi je ne connaissais pas comment les impôts venaient, mais je recevais cette parole qui disait « Dieu va te redonner 7 ans de redevance sur ce que tu as payé en trop ». Et on a prié ça en tant qu'équipe au château. Et à l'époque, je ne savais pas du tout comment fonctionnaient les impôts et qu'est-ce qu'on pouvait réobtenir. J'ai fait des lettres. Et en fait, nous avons reçu un remboursement, un dégrèvement pour cette année, exactement, des impôts que nous avons payés en trop. Le Seigneur nous a remboursé, au travers des impôts, la totalité de la taxe d'habitation que nous avons payée, les 7 années exactement. Parce que nous avons eu confiance que Dieu est le Dieu qui nous aime, le Dieu qui veille sur ses enfants, et le Dieu qui répand sa vie abondante. Donc voilà, je voulais donner cette anecdote parce qu'elle parle du cœur de Dieu et comment Dieu répond à ses enfants. Et je vous laisse avec ce verset qui finit cette histoire. Donc c'est dans Éphésiens 3, la prière de Paul, versets 16 à 20. Qu'est-ce que Paul demande pour nous à Dieu ? Éphésiens 3, versets 16 à 20. « Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » Voilà, ça c'est le Dieu que nous avons, et cette puissance, elle agit quand nous comprenons et nous nous enracinons dans son amour. On va prier. Alléluia, Jésus, Choco, Chakalama, Chakalama. Seigneur, nous voulons proclamer sur chacune des vies ici que tu n'es pas un Dieu lointain qui est au ciel et qui n'entend pas et qui ne voit pas tes enfants, mais tu es un Dieu proche. Et non seulement tu es un Dieu proche, mais tu nous invites à la proximité avec toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour chaque fois que nous avons cru que tu étais un Dieu lointain, un Dieu qui n'était pas capable de répondre, un Dieu qui ne voulait pas répondre, un Dieu qui n'entendait pas nos prières. Seigneur, tu connais nos cœurs. Et Père, nous voyons et nous confessons et nous réalisons que ce n'est pas toi qui es limité, mais c'est les limitations que nous te donnons et que nous te mettons qui nous empêchent d'entrer dans la vie abondante que tu veux donner à tes enfants. Père, je prie ce matin que tu fasses une œuvre en profondeur dans les cœurs. Seigneur, je prie que nous soyons capables de confronter nos frustrations, de confronter nos résignations, de confronter tout sentiment d'indignité, Seigneur. Si nous avons des choses à t'apporter, que nous les apportions, nous les déposions à ta croix pour obtenir ton pardon et pour être revêtus de ta justice. Mais s'il y a des choses que nous t'avons apportées et que tu as effacées, Seigneur, nous ne voulons pas être retenus en arrière, nous ne voulons pas être pris dans ce sentiment d'indignité qui ne vient pas de toi. Père, je prie une libération, Seigneur, sur chacun de tes enfants aujourd'hui. Je prie une libération sur ton Église de tout sentiment d'indignité, Seigneur, de tout esprit de timidité. Père, je prie que tu mettes au large tes enfants maintenant, Seigneur, dans cette justification par la foi, dans cette approbation du cœur de Dieu. Je prie que nous puissions venir et nous saisir de cet amour de Dieu. Seigneur, quand dans le naturel, une femme est aimée, nous le voyons sur son visage. Nous voyons qu'elle change. Seigneur, combien plus tu aimes ton Église, combien plus tu aimes chacun de tes enfants ici. Que les visages et les vies changent, Seigneur. Que nos cœurs soient transformés par la réception de cet amour. Ton amour ne change pas, mais Seigneur, nous voulons le recevoir tout à nouveau dans nos cœurs. Et que cet amour de Dieu nous lave et que cet amour de Dieu dissipe tout esprit de résignation, tout esprit d'indignité, Seigneur, que toutes ces choses soient balayées, Seigneur, par ton amour, agissant dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, tu le fais maintenant et nous voulons saisir ta parole par la foi et la laisser faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.